dès maintenant concitoyens des anges et des saints. D'après l'enseignement de Jésus-Christ, la vie éternelle n'est pas un don à venir, mais une réalité actuelle que, selon la loi de l'incarnation, nous recevons sacramentalement, que nous possédons déjà, comme l'a écrit l'apôtre Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Non pas aura la vie éternelle. Quant au prodige de l'Eucharistie, Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » La vie éternelle est la vie divine, et quand il se donne à nous, il nous donne sa vie, la vie éternelle donc. C'est principalement par les sacrements que nous recevons ce don de Dieu. Le Christ distingue la vie éternelle qui nous est déjà donnée de notre résurrection au dernier jour. La grâce de Dieu est une participation à sa vie. Elle n'est pas seulement une sainteté opposée au péché, mais une vie opposée à la mort. C'est pourquoi Jésus relie la sainteté à la joie et à la vie éternelle. Nous ne sommes pas si naïfs au point de fermer les yeux devant la limitation et la pauvreté de notre condition terrestre, mais cet état terrestre de pérégrination n'est pas ce qui est proprement chrétien. Jésus a dit « Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde ». Par le baptême, nous sommes déjà nés au ciel, même si nous nous trouvons en même temps sur cette terre. Cette double naissance caractérise notre existence chrétienne qui est toujours un être là. C'est le baptême qui nous fait concitoyens des saints et frères du Christ. Vivre en commun avec les gens dans le temps apporte avec soi une grande quantité de frictions et de difficultés. Dans la famille, dans les communautés religieuses, partout, la vie en commun n'est pas facile. Cette communauté de vie avec ses semblables consiste parfois, selon les paroles de saint Paul, à se supporter mutuellement. Chacun d'entre nous porte aussi la charge de l'autre afin que s'accomplisse la loi du Christ. Aussi longtemps que nous vivons sur terre, la perfection de la charité se limitera souvent à cette patience et à se supporter mutuellement qui peut même, comme pour le Christ, nous quitter la vie. Mais le chrétien n'est pas seulement le citoyen de la cité terrestre qui doit vivre dans la patience du temps, mais aussi de la cité céleste comme concitoyen des anges et des saints, comme frères et sœurs du Christ. Et en tant que tel, il éprouve la plus parfaite communauté de vie. Vivre dans l'Église, c'est cette communauté d'amour. Au travers de l'Église, notre prison temporelle est ouverte, de sorte que dans le Christ et avec lui, nous sommes déjà entrés dans sa gloire. Nous considérons souvent l'Église comme une famille terrestre pérégrine. Nous oublions qu'il existe une seule Église qui s'étend jusqu'au ciel. Sont liés à elle dans l'unité ceux qui cheminent encore dans la foi, dans son clair-obscur, et ceux qui vivent déjà dans la vision béatifique et plus dans la foi. Ils ont la vraie vie, alors qu'en plein cœur de la vie, nous sommes toujours des mourants. Ce n'est pas la mort qui introduit les chrétiens au ciel, mais le baptême. À la mort, les voiles seuls tombent qui sont un signe de l'éternelle présence de Dieu, mais qui la cache aussi. Nous cheminons en vertu de la foi dans une existence qui, marquée par l'humilité, la souffrance, l'affliction, porte déjà en son sein le germe de la paix définitive. Pour nous comme pour le Christ, le paradoxe consiste en ce qu'il nous faut souffrir pauvreté et douleur, tout en possédant en même temps la joie et le salut. L'Église, la communauté qu'il a fondée, est conformée par le Christ, Marie, les saints et les anges, et nous y avons part. En ce sens, nous sommes aussi l'Église. La visibilité de l'Église est signe d'une réalité qui dépasse infiniment ce signe, comme les espèces eucharistiques cachent et montrent en même temps la réalité de Jésus-Christ dans cette présence de Jésus-Christ, cette présence réelle qui transcende infiniment la pauvreté du pain et du vin. Nous ne pouvons confondre l'Église avec ses structures visibles. Le peuple de Dieu chemine sur terre, mais il ne forme qu'une partie de ce corps entier dont les membres les plus puissants vivent déjà dans le ciel. L'union d'un chrétien en état de grâce avec un seul saint au ciel est bien plus intime que celle qu'il peut avoir sur terre avec un frère ou une sœur vivant dans le péché. Cette réalité devrait éclairer notre vie quotidienne. Nous vivons quotidiennement avec les saints et les anges, et la joie chrétienne jaillit justement de cette communauté que nous appelons Église, qui n'engendre pas seulement l'union avec le Christ, mais aussi la présence des anges et des saints. Par l'incarnation et l'ascension, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Depuis Bethléem jusqu'au jardin des Oliviers, les anges ne cessent de parcourir l'Évangile. À l'heure de la peur la plus effroyable, le Seigneur a éprouvé l'abandon du Père, mais c'est alors justement qu'il est consolé par les anges. Et au temps des tentations dans le désert, les anges lui apparurent et le servirent. Là où le Christ est présent, là aussi les anges sont avec lui. Là où est le chrétien, là les anges sont avec lui, même s'il est abandonné par tous ses semblables. Car les anges sont fidèles, parce que leur amour est éternel et qu'ils ne connaissent aucune inconstance. Tout comme notre vie implique la présence de l'enfer, elle implique aussi celle du ciel qui nous vient à l'aide. « Les anges te porteront sur leurs mains », dit le psalmiste, et Origène disait que le monde entier était rempli d'anges. Dans toute situation, le chrétien doit être toujours conscient de la présence et de l'action des anges. Nous devons attribuer à l'action des anges pas seulement le prodigieux, l'inconnaissable. Tout ce qui nous semble naturel est aussi surnaturel, non en raison d'un mélange, mais en raison de l'imprégnation du surnaturel, du divin, de la transformation et ensemencement qu'opère la grâce. C'est pourquoi le chrétien ne devrait pas avoir peur du monde infernal, puisqu'il se sait protégé par des myriades d'anges. Il appartient à la même cité divine que les anges. Il ne pense pas que l'on doit vivre la vie spirituelle, surnaturelle, seulement dans la maison de Dieu, mais il pense à l'omniprésence divine. Car là où est Dieu, là est le ciel, là sont tous les anges et les saints. Le chrétien n'est jamais seul, car les saints et les anges sont toujours auprès de lui. Il ne s'agit pas ici de fantasmes, car l'imagination humaine ne peut même pas effleurer la grandeur et la plénitude divine. Cette plénitude divine est la Jérusalem céleste, l'innombrable foule des élus qui, dès maintenant, se tiennent prêts à accueillir tout être qui, dans la foi, accepte l'invitation de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, on parle d'une immense nuée de témoins de Dieu. Tous sont nos compagnons de voyage qui ont déjà atteint le but et qui, en même temps, nous accompagnent et nous aident. La sainteté est la plénitude de l'amour. Comment un saint dans le ciel nous oublierait-il ? Tous ensemble, on part très intimement à la plénitude de Dieu qui est amour. Ne craignons jamais de trop demander dans la prière, car l'amour que les saints nous offrent est bien plus grand et plus pur que celui que nous leur demandons. Jamais nous n'épuiserons l'amour que le ciel déverse sur nous. Nous vivons effectivement du ciel. Nous sommes unis à tous les saints. Saint José Maria a gravé très profondément la vitalité de la communion des saints comme fondement de notre confiance dans le domaine de la recherche personnelle de la sainteté, de l'amour du prochain, de nos efforts apostoliques dans le monde. Les parfaits, dans leur totalité, ne sont pas des spectateurs passifs de notre lutte ici-bas. Ils sont nos donneurs de sang, et la communion de vie avec eux est une transfusion sanguine permanente qui balaie tous les maux du temps et nous entraîne petit à petit dans l'éternité de la plénitude divine. la Toussaint, et nous pensons aussi à nos défunts, nous met devant une grande communauté inaccessible par le sentiment, mais plus réelle que tout ce que l'on peut ressentir. Dans la prière et surtout les sacrements, entrons dans cette communauté d'éternité. Ne soyons pas mesquins, nous sommes déjà au cœur de l'éternité. Ce que nous vivons ici, tout cela passera, et ensuite viendra la plénitude, la vie éternelle, unie à tous les saints et anges de Dieu. Marie, la plus parfaite de toutes les créatures, une femme, un être humain, est la reine des anges, parce qu'elle a servi Dieu et les hommes mieux que tous les anges ensemble. Regina Coeli, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis. En marche vers notre but surnaturel. Au commencement d'une méditation, nous avons l'habitude de nous tourner vers Dieu avec ses paroles. Je te demande la grâce de faire avec profit ce moment de prière. L'important, ce faisant, c'est que chacun d'entre nous s'ouvre à Dieu tout ce temps-là pour lui demander de nous infuser son esprit, sa force. D'un autre côté, il nous faut aussi parler rationnellement, raisonnablement, mais seulement comme une incitation à un dialogue personnel avec Dieu. Sinon, nous avons perdu notre temps. C'est ainsi que nous commençons par le fait qu'un penseur français, Gabriel Marcel, un des plus grands philosophes du XXe siècle, a bâti sa conception de la vie chrétienne, son anthropologie, sur le caractère de cheminement que revêt notre vie. Ici et maintenant, l'homme est un viateur, un voyageur, qui selon la Sainte Écriture, n'a pas ici-bas de cité permanente, il est toujours en chemin. Ce qui caractérise notre mode d'existence, c'est que nous sommes des êtres toujours en train de cheminer. Cela signifie que l'homme naît dans le temps, qu'il se développe dans le temps, que le temps lui-même le dévore et le dissout. Cette expérience de la temporalité, c'est-à-dire de la fugacité, recèle aussi cette autre expérience de l'ouverture de chaque instant à un autre et de l'orientation de chaque heure de la vie à une autre qui n'est pas encore là. Cela ne signifie pas seulement que tout s'écroule et passe irrémédiablement, mais aussi que le pèlerin possède une dynamique intérieure, personnelle, constitutive, qui le pousse en avant, même s'il sait que cet après ne s'étendra pas indéfiniment. La mort mettra un terme à la vie ou l'interrompra un jour. Prendre un temps de recueillement en novembre est toujours une invitation à une considération de la mort dans notre civilisation chrétienne et aussi dans beaucoup d'autres civilisations non chrétiennes. Personne ne devrait s'insurger contre cela, car objectivité et juste amour de la vie exigent précisément la confrontation avec le phénomène de la mort, en dehors de laquelle ne peuvent être développées qu'une conception irréelle de la vie et un comportement étranger à la réalité. La mort, comme la vie, se révèle inaccessible, énigmatique, mystérieuse. Comme le mystère de la vie, elle est quelque chose que nous ne pouvons pas déterminer, calculer. C'est pourquoi l'on ne rencontre la réalité de la mort que lorsqu'on a une certaine attitude de respect comme devant toute œuvre de Dieu. La vie est une œuvre de Dieu et la seule attitude qui convienne devant la vie est la même que celle qui convient devant la mort, l'attitude du respect. Pour le dire autrement, un certain sentiment d'adoration doit accompagner notre vision afin que nous n'épuisions pas la réalité par une recherche et considération purement rationnelle. En ultime ressort, quiconque ne considère la vie et la mort que de façon rationnelle finira tôt ou tard par désespérer. Nous nous trouvons devant un mystère et cela exige du respect et ultimement de l'adoration puisque ce mystère révèle Dieu. Dans la théologie comme science de la foi, ce mot de viator a une relation au mot de comprehensor, c'est-à-dire de possesseur. L'homme sur terre est un viateur, un pèlerin, un voyageur, destiné à un but, chez qui tout est dépassement en vue de ce but. Quand il atteint le but, comprehendit, il le saisit, non pas seulement au sens de comprendre, mais de posséder. Quand nous disons que l'homme est un voyageur, nous supposons qu'il n'a pas encore atteint son but, qu'il est essentiellement inachevé. Cela concerne chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous mène au fond une existence insatisfaite et ici-bas sur terre nous n'avons aucun appui sous les pieds. Mais nous sommes, selon saint Paul, des étrangers et selon l'apôtre Pierre, des hôtes de passage. Puisque nous sommes des voyageurs, nous avons en tête « Je marche vers une destination, là est notre patrie ». Saint Paul dit que Dieu nous a préparé au ciel une demeure éternelle. Le chemin n'est pas la patrie, n'est pas notre demeure. Mais cela signifie que tout dans notre vie a un sens, le sens d'un chemin vers un but, d'un chemin approprié, mais pas cependant d'un chemin autarcique, autosuffisant. Le chemin n'est pas le but. La révélation divine nous montre le but du chemin terrestre. Sinon, nous ne saurions pas l'origine, la destination, le pourquoi de la vie. Elle dit « Notre patrie est dans le ciel. Tout ce qui donne un sens à notre vie est en lien avec ce but, avec ce lieu ou cet état dans lequel l'homme entre en possession de sa plénitude. Le but est la possession, l'état de possession de son être propre. La révélation nous dit que le but consiste en ce que nous verrons Dieu tel qu'il est. Le voir tel qu'il est ne signifie pas un enrichissement particulier de notre intellectualité. La vision béatifique est bien plus qu'une activité intellectuelle. Vision béatifique signifie participation à la vie divine, de telle sorte que là, au terme, je sois transformé si profondément et substantiellement que je me tiendrai pour toujours au-dessus de ma nature humaine, que je serai bien plus Dieu que homme. Je ne dis pas une hérésie, mais ce que l'Église et la foi chrétienne ont toujours pensé. À la fin, nous reconnaîtrons ce que nous sommes vraiment. C'est la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Ainsi, lisons-nous dans le catéchisme du pape Pie V, qui résuma les enseignements du Concile de Trente, cela a été repris par le catéchisme de l'Église catholique. « Ceci est la vie éternelle, dit le Seigneur Jésus, qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est une affirmation que saint Jean semble vouloir expliquer en disant « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Car il suggère que la béatitude consiste en deux éléments. D'un côté, que nous verrons Dieu tel qu'il est dans sa nature et son essence. D'un autre côté, que nous deviendrons, pour ainsi dire, des dieux. Car ceux qui jouissent de lui, tout en gardant leur propre nature, prennent une forme merveilleuse et quasiment divine, de sorte qu'ils semblent être plus des dieux que des hommes. Le sens de notre existence, c'est que nous atteignons cet état d'être plus que des hommes. C'est le but de notre nature de pèlerin. La vision de Dieu et de la plénitude divine dépasse le désir humain et nos capacités. Je ne peux atteindre ce développement sur fond de mes puissances psychiques, spirituelles, corporelles. Cette situation ultime dépasse toutes nos représentations, intuitions, et cependant il nous faut accepter aussi quelque chose de stupéfiant. Si le chemin et le but sont si liés, il faut qu'existe aussi, ici sur le chemin, quelque chose du but, quelque chose de supra-humain. Il faut déjà qu'il y ait là quelque chose de surnaturel, de divin, adhérent à ce qui est naturellement humain, et ce sans faille, en germe, comme en témoigne le dialogue nocturne de Jésus avec Nicodème. Il nous faut renaître. La mort est une nouvelle naissance pour pouvoir entrer au ciel. Car ce qui est né de la chair est chair, donc fini. Ce qui est né de l'esprit est esprit, donc infini. La vie est un chemin dans la mesure où elle porte déjà en son sein le divin. Ce ne serait pas un chemin s'il ne possédait pas une dimension plus élevée, s'il ne montrait aucune ouverture et aucune orientation intérieure vers le but surnaturel. C'est en chemin que l'Éternel mûrit en nous, sinon nous ne pourrions jamais l'atteindre. Cette semence d'éternité, de l'état définitif de paix et d'efflorescence, nous l'appelons la grâce. Puisque le but final est la vie éternelle, Dieu lui-même est Dieu tout en tous, qui se donne à l'homme comme objet de sa plénitude et de son amour, il faut que cette réalité du don de Dieu aux hommes soit déjà là en germe. Sinon, nous ne serions pas des voyageurs. Par la grâce du baptême qui fonde la participation à sa vie et la grâce des autres sacrements, le chrétien reçoit le divin, l'inhabitation de la Trinité en son âme. Nous sommes des porteurs du Christ. En nous, au tréfonds de l'âme de chacun, habite la Sainte Trinité. C'est pourquoi il ne nous faut pas tant chercher les consolations, parce que nous savons déjà que notre Dieu, même s'il semble loin de nous, habite au cœur de notre âme et donne à toute notre vie, comme le décrit Saint José Maria, une dimension surnaturelle, supra-humaine. Le voyageur toujours en route parce qu'il veut atteindre le but peut l'atteindre parce qu'il porte déjà en son propre sein quelque élément de son but. Celui qui refuse la grâce, qui éteint en lui par le péché la vie de la grâce, cesse d'être un voyageur au sens authentique du terme. Il n'est pas sur la bonne voie, mais se fourvoie plutôt. Cela ne signifie pas que le temps et le monde forment la simple scène où tout le reste se développe vers Dieu de façon autonome et comme ajouté. Le temps n'est pas seulement le cadre de notre état de voyageur, mais il en est partie prenante, car l'homme n'atteint Dieu qu'à travers le temps, à travers la chair du quotidien, à travers les œuvres qui ont été mises en avant au cours du temps. Il n'y a pas d'autre chemin. Ou bien nous rencontrons Dieu dans notre vie quotidienne, ou nous ne le rencontrerons jamais, disait Saint José Maria. D'où la fonction de la prière qui ouvre toutes les choses de la vie au Dieu prévenant. La prière, en effet, découvre le fondement profond du monde et du temps, transformé par la descente de Dieu, libéré de leur fugacité et devenu lieu de la rencontre avec l'éternité. Nous nous mouvons dans un espace sanctifié par Dieu. Tout ici sur terre n'est pas seulement trace de Dieu, du Créateur, mais par l'incarnation, présence de Dieu, du Sauveur, qui prie, ne cesse pas d'être un voyageur, mais il transperce l'enveloppe du temps et de l'espace et boit déjà à la source de la vie éternelle. En chemin vers le ciel ou l'enfer. Se recueillir pour des croyants ne signifie pas s'éloigner de l'existence et encore moins la rejeter ou se projeter dans un état idéal de ravissement, mais au contraire, embrasser la réalité chrétienne, la vie comme chemin, qui reçoit certainement du but sa signification et sa densité, mais aussi la vie comme itinéraire que le Christ parcourt avec nous, comme autrefois avec les disciples d'Emmaüs. Mais maintenant, nous savons ce qu'il y aura à la fin, et dès maintenant, nous pouvons, sur la route, éprouver combien notre cœur brûle, puisque lui, la vérité, le chemin et la vie, nous parle et chemine avec nous. Ces noces de Dieu avec notre monde eurent lieu dans le sein de Marie. C'est pourquoi elle est la mère de tous les rachetés, surtout de tous ceux qui, par le baptême, ont part à la vie divine déjà dans cet état de pèlerin. Le chemin est essentiellement relation, essentiellement provisoire, d'où sa pauvreté et sa richesse, sa misère et sa grandeur, ses limites, car il est fugace, et sa qualité aimable, car il mène à l'infini, à l'éternel. On ne peut le transformer en une demeure, mais on doit hautement l'apprécier et l'aimer. Ceux justement qui considèrent le chemin comme un but, qui récusent l'au-delà pour absolutiser le temps et le monde, sombrent dans la déception, la tristesse, le dégoût et assez souvent le désespoir. Ils aimeraient élever le temps et la matière et deviennent des nihilistes haineux et destructeurs. Quoi d'étonnant que l'Église qui annonce Dieu, le supra-temporel et le surnaturel, ait dû assumer dès les premiers siècles la défense du monde, du temps, de la matière et du corps, car tout mépris de la créature est mépris du Créateur, toute défiance envers l'histoire est défiance envers l'Éternel, dans lequel l'histoire débouchera et dont elle tire sa valeur. Si le chemin n'est pas un chemin, mais un cercle fermé, sans relation avec le ciel, il devient une véritable absurdité, un cercle infernal. D'un autre côté, à l'irrévocabilité de chaque instant correspond l'irrévocabilité de la vie comme tout, ce que l'Église catholique appelle le caractère unique et irrépétible du statut viatoris, c'est-à-dire que chaque homme ne vit qu'une fois dans son état de pérégrination et qu'avec la mort, cette manière de vivre du voyageur s'achève et l'homme revêt une forme de vie définitive. Nous n'allons qu'une fois vers Dieu, d'où la vigilance et la vénération qui doivent caractériser notre cheminement, comme la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II l'a déclaré. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour pouvoir, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, être admis avec lui aux noces et compter parmi les bénis du Père. N'est pas seulement exclue toute continuation de vie sur terre, il n'y a pas de réincarnation, mais aussi toute possibilité de prendre des décisions au-delà du seuil du temps. Le destin éternel dépend des œuvres qui ont été réalisées dans la chair du temps, ou pour le bien ou pour le mal. En conséquence, deux propriétés caractérisent notre état de pèlerin. D'un côté, la possibilité de perdre définitivement le chemin. D'un autre côté, la possibilité de revenir d'errement et d'égarement et de les corriger. La première caractéristique naît du fait que nous n'avons pas encore atteint notre accomplissement et que notre liberté est réelle, mais conditionnée. Avec elle, il nous est loisible de choisir le bien et le juste, mais aussi le mal et le faux. La révélation concernant l'enfer éclaire cette réalité. On peut frustrer sa propre capacité à devenir compréhensor et par là ne pas accomplir la fin de toute l'existence terrestre. Tout comme le ciel révélé, l'enfer révélé projette une claire lumière sur notre état de pèlerin, à savoir sur la signification capitale de toutes nos attitudes et actions, sur l'ampleur de notre liberté. Parce que la liberté est volonté et possibilité de poser du définitif et en même temps non-possibilité d'une révision toujours nouvelle. C'est pourquoi l'enfer est éternel, a écrit Karl Rahner. C'est en cela que consiste la capacité proprement dite de la liberté humaine. de créer des faits et des situations définitifs, comme par exemple le véritable amour qui se lie définitivement. Les êtres non libres, du fait d'un blocage intérieur ou de la pression extérieure, ne savent créer que du temporaire, du provisoire, et sont incapables de s'engager définitivement. C'est du cœur le plus intime, libre, de la personne, que provient donc la possibilité d'un échec définitif. Et l'Évangile parle de façon non équivoque de peine éternelle. Selon les termes de Joseph Pieper, dans la damnation, l'aspect positif de la pérégrination, c'est-à-dire l'orientation vers la plénitude, reste détruit. Et l'aspect négatif du pas encore de l'être en chemin se transforme, isolé, en une grandeur absolue. Ce pas encore de l'existence créaturelle vire à un simple et essentiel rien. Tout en rejetant l'antique doctrine de l'apocatastase finale, c'est-à-dire d'une restauration du monde et du salut de tous les hommes, la question reste ouverte. Comment Dieu, qui n'est pas seulement miséricorde, mais avant tout amour, et qui a donné son Fils afin que l'homme ne se perde pas et qu'il ait la vie éternelle, qui donc voudrait que tous les hommes soient sauvés? Comment peut-il permettre que quelqu'un le rejette à ce point qu'il doive être condamné à des peines éternelles? Ainsi s'interrogeait le pape Jean-Paul II dans son livre « Entrée dans l'espérance ». C'est un mystère impénétrable. Celui qui ne veut en aucune façon se laisser réconcilier avec l'amour de Dieu, si quelqu'un donc pèche contre l'Esprit Saint, cela ne peut être pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, comme Jésus lui-même l'a déclaré. Sur ce sujet, l'Église se tait, et d'après Jean-Paul II, ce silence est la seule attitude des chrétiens qui soit appropriée devant ce mystère. C'est justement pourquoi l'on rend un mauvais service aux chrétiens en ne leur parlant pas de l'enfer ou en les privant de connaître sa dimension tragique, elle aussi révélée. L'histoire culturelle montre que précisément, aux époques où les théologiens et prédicateurs ont caché ce dogme de notre foi, où l'on proscrit comme étant l'annonce d'une menace, la liberté de l'homme a été remise en question. Le concept, le sens du péché s'est affadi, et le sacrifice même du Christ a été dévalorisé. La deuxième caractéristique de l'état de pèlerin est la révocabilité de tous les pas qui ont été faits, de toutes les décisions prises et attitudes adoptées. On peut tomber à chaque instant, mais on peut toujours se relever. Seule la mort les fixe, les rend irrévocables, définitives, et ouvre la porte du bonheur éternel ou du malheur. Celui qui est sauvé perd la possibilité d'embrasser le néant, de choisir le mal. La liberté de pécher se transforme en une liberté d'un degré plus élevé, pour laquelle seul le bien, Dieu lui-même, peut être aimé et embrassé pour toujours. La mort, le plus grand des maux en raison de sa nature destructive, devient aimable sous cette lumière, car par elle seule, l'homme rencontrera Dieu définitivement pour s'unir à lui pour l'éternité. Le visage effrayant de la mort comme salaire du péché a été anéanti par le Christ. Et depuis lors, le chrétien entre dans la mort avec un sourire qui reçoit la nouvelle naissance en Dieu définitive comme achèvement de son état de pèlerin. Un poète italien a écrit « La mort viendra et elle aura tes yeux, car dans la mort, il en va effectivement de cet instant qui ne passe pas, de ce « les yeux dans les yeux », de ce regard qui un jour m'a fait sortir du néant et qui maintenant me sauve définitivement du néant. « Je suis parce qu'il me regarde », disait saint Augustin. Si quelqu'un sans péché mortel rencontre le visage du Dieu vivant, alors la misérable existence de la créature entre dans la flamme dévoilée de la gloire divine qui brûle tout ce qui est trouble, faible, déformé, imparfait, et qui purifie pour atteindre cette pureté seule digne de l'éternité céleste. Puisque les actes suivent l'être, ainsi donc les bonnes œuvres accomplies en chemin, malgré les déficiences et les péchés, suivent l'être du racheté. Opera illorum sequuntur illis. Car les œuvres, leurs œuvres les suivent. Ce qui était tordu se redresse. Ce qui a été essayé arrive à efforescence. Ce qui était mêlé devient pur. Ce qui était imparfait atteint sa plénitude. Comme le dit l'Écriture, nous atteignons alors la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Tous les événements, les moindres et les plus importants, qui semblaient énigmatiques et même absurdes lors de la pérégrination terrestre, y compris les erreurs et les fautes qui nous semblaient incohérentes, reçoivent maintenant la lumière d'une providence et d'une attention prévenante qu'auparavant ni l'intelligence ni le cœur n'étaient en état de comprendre. Tout était grâce, miséricorde et amour du Dieu des vivants. La mort aussi, la forme déterminée qui correspond pour ainsi dire exactement à chacun. La mort qui doit être et sera ma propre mort, unique, personnelle. C'est ainsi que saint José Maria écrivait « Ne crains pas la mort, accepte-la dès maintenant avec magnanimité. Quand Dieu voudra, comme Dieu voudra, où Dieu voudra. » Sois-en sûr, elle viendra à une heure, en un lieu, et d'une manière qui sera pour toi la meilleure, envoyée par ton Père, Dieu. Concluons avec ces paroles de saint François d'Assise. Bienvenue soit notre sœur la mort, et tournons-nous avec pleine confiance vers Marie. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.